émission spéciale MIPIM 2024 sur Radio Imo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Et voilà, comme chaque année, je suis très heureux, voire très ému aussi, puisque je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que nous sommes nés au MIPIM en 2016. C'est l'édition 2024 qui se prépare et comme chaque année, quelques jours avant, justement, nous faisons cette émission pour vous donner à la fois envie de venir, mais vous faire découvrir à la fois toutes les innovations et comment la planète immobilière, je dis bien la planète au sens propre, se réunit à Cannes cette année du 11 au 15 mars. C'est bien ça ?
Absolument.
Du 11 au 15 mars, autour d'invités qui vont nous donner aussi envie de croire encore à l'immobilier, parce que l'immobilier a un avenir devant lui, bien évidemment, toutes les actifs confondues. On va parler des sujets qui aussi parfois nous posent question. On va faire un tour sur le marché avec nos invités. Il est le directeur du MIPIM, il est avec nous, c'est Nicolas Kozubek. Comment ça va, Nicolas ?
Parfaitement bien, bonsoir et merci de m'accueillir comme... tous les ans, même si j'étais pas là depuis le début en ce qui me concerne, mais ça fait déjà quelques années et toujours un plaisir.
C'est un plaisir de vous avoir. Merci Nicolas et merci de la confiance que vous renouvelez d'ailleurs à Radio Imo, comme vous le faites chaque année. Sophie Ménet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'immobilier résidentiel de GA Smart Building.
Exactement.
Merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation. Il me semble que c'est la première fois que je vous interview.
C'est la première fois que vous m'interviewez.
Donc je suis très heureux de réparer cette injustice.
En 2024. Voilà.
Merci d'être avec nous. Alors, il fut l'un des premiers que j'ai interviewé, je crois même que c'était au MIPIM, effectivement, en 2016, un architecte connu et reconnu, quelqu'un que j'aime particulièrement par sa dimension à la fois artistique, économique aussi, puisqu'il a une vision d'entrepreneur également, comme quoi on peut résoudre et concilier tous ces univers. Je suis très heureux, très honoré qu'il soit avec nous sur le plateau, c'est Philippe Chambaretta.
Bonjour.
Comment ça va, Philippe ?
Ça va très bien.
Je suis très heureux de vous avoir sur le plateau. Vous êtes architecte, fondateur de l'agence PCA Stream et je rappelle que vous êtes finaliste cette année des MIPIM Awards 2024 dans la catégorie, alors je ne suis pas très anglais dans l'anglais, hein, je ne suis pas très très bon là-dedans, Mixed Use Project, c'est bien ça ? C'est le projet Stream Building.
Avec le Stream Building, en effet.
Absolument. Ouais. Voilà, un prix encore, une nomination supplémentaire pour l'agence.
Nomination, on verra si ce sera un prix.
Ouais. Bon, en tout cas, votre agence est très connue, vous faites pas mal de choses. On parlera tout à l'heure, bien évidemment, de ce projet avec l'université PSL, j'aimerais que vous en parliez tout à l'heure. Ces sujets sont très importants et pour justement alimenter avec des données, des informations qui sont importantes et qui touchent l'ensemble de la planète immobilière, nous avons notre rédactrice en chef de Radio Immo qui est avec nous sur le plateau, Bérénice de Villefloriau.
Bonsoir.
Comment ça va, Bérénice ?
Ben, en pleine forme, ravie d'être présente ce soir.
Voilà, un très très beau MIPIM qui nous attend, on est très heureux. On a vérifié, Nicolas, on va avoir beau temps, très beau.
C'est ce qu'on vient de se confirmer voilà. Juste avant, et en effet, ça n'a pas changé.
C'est le plus important.
Il va faire très très beau. Quelques informations, si vous voulez bien, pour démarrer cette émission, qui va durer ensemble pendant une bonne trentaine de minutes. Si on devait faire un point, Bérénice, sur le marché aujourd'hui, où est-ce qu'on pourrait se situer à l'aube, justement, du MIPIM, dans ce premier trimestre 2024 ?
Alors, l'année 2023, on ne va pas se mentir, hein, c'était une année compliquée pour tout le secteur, que ce soit pour les promoteurs, pour les agents IMO, pour les entreprises du bâtiment, pour le marché de la location. Voilà, une année vraiment ralentie. Il y a les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers qui ont été dévoilés. C'est la pire année en termes de construction neuve, donc depuis même le confinement. Hein. Après, c'était la pire année, celle du confinement, donc c'est devenu la pire année en 2023. Le marché de la location est aussi très tendu, avec une demande qui explose. Forcément, l'offre est moins présente, hein, puisque les transactions sont bloquées. Donc, les locataires restent chez eux, il y a moins de turnover. Voilà, on constate aussi que cette crise est en train de s'installer chez nos voisins européens. On n'est pas les seuls en France, hein, que ce soit en Suède, en Espagne, aux Pays-Bas, en Grèce. Voilà, c'est un petit peu la même chose. La construction qui est au ralenti, le tourisme qui s'intensifie depuis les confinements et qui n'aide pas, les taux qui ont augmenté, hein, qui sont passés de 1% à plus de 4% en un an et demi. Donc voilà, bon, certains économistes avaient prévu un krach immobilier européen. C'est pas le cas. Donc déjà, on se rassure. Et la bonne nouvelle, c'est que les taux commencent à baisser.
Ah, bah, y a encore une bonne nouvelle.
Voilà, en ce début d'année. Donc c'est ce que nous ont confirmé les courtiers là récemment, hein, depuis quelques semaines. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que toutes les banques sont également de retour sur le marché du crédit, ce qui n'était pas le cas hein, jusqu'en décembre. Il y a à nouveau de la concurrence entre les banques. On peut à nouveau négocier son taux. Ça, c'est sorti cette semaine. Hein. Quand on négocie bien, on arrive à avoir un taux bien inférieur à 4% pour un prêt de 25 ans. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Des crédits donc, qui sont de plus en plus accordés, on va dire, pour nos Français, nos ménages français. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle de ce début d'année. Il faut voir les choses positivement. Un déblocage qui commence.
Merci beaucoup, Bérénice. Voilà, quelques mots positifs. Alors, ce n'est pas la méthode Coué, hein, je vous préviens, les amis. Ouais. puisque, voilà, mais je vais bien, tout va bien. Voilà. Ce n'est pas Danny Boone. On n'est pas dépressif.
Non, mais il faut quand même voir les choses du côté positif.
Et il faut ajouter que tout bouleversement est propice au changement. C'est dans la nature de l'homme et l'immobilier s'inscrit parfaitement dans cette démarche. On va commencer par vous, Nicolas Kozubek. Si je vous demande comment vous décririez, vous allez décrire cette année 2024 qui est quand même très importante pour le MIPIM, vous diriez quoi aujourd'hui ?
Peut-être de façon surprenante, c'est une année qui s'annonce bonne pour le MIPIM. On est sur une édition qui, en termes de volume, sera assez similaire à ce que les participants ont connu l'an dernier. L'an dernier, moi, j'ai souvenir d'avoir eu déjà beaucoup de sensations plutôt complexes dans les échanges avec les participants qui sentaient que quelque chose allait venir et étaient en train de venir, voire étaient un peu déjà là. Et c'est arrivé. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est que quand même, on entrevoit une forme d'amélioration. Et je pense qu'on va vers une année meilleure que la précédente. Il faut encore une fois voir les choses plus positivement que négativement. Et le MIPIM intervient à un moment qui va permettre de prendre un petit peu le pouls, va permettre de se remettre en dynamique pour se mettre dans des bonnes conditions pour l'année 2024. Ça a toujours été la fonction du MIPIM. Sa position en début d'année sert aussi beaucoup à ça. Et on va se retrouver avec plus de 20 000 participants, plus de 90 pays. Donc une édition, encore une fois, assez riche, qui, bien évidemment, prendra en compte toutes les problématiques du moment, qui essaiera de pousser les discussions. Nous, on a un événement qui, on espère, a de la valeur, peu importe le contexte. Et c'est ce qu'on essaie de faire encore cette année.
C'est l'impression qu'on... Alors, je vous confirme et je vous le dis. C'est l'impression qu'on a, c'est que cet événement est quasi presque... Enfin, j'ai dire presque intemporel, je m'explique. Il est le rendez-vous de l'année, de la planète immobilière, où s'échangent, bien évidemment, les idées, les projets. Et vous mettez à l'honneur aussi, de manière assez exemplaire, les interventions sur les différents pays. Mais je dois dire aussi que vous avez élargi votre spectre sur tout ce qu'on appelle les classes d'actifs immobilières. On parle de tout au MIPIM, c'est important ?
Moi, ça me paraît évident. Mais c'est sûr qu'il y a une image du MIPIM historique qui était parfois un peu plus focalisée, notamment sur le bureau ou le tertiaire. Mmh. Il y avait aussi une image qui était très centrée sur l'investissement. Alors je vous rassure, c'est toujours le cas. Structurellement, on a un tiers de nos participants qui sont des investisseurs et des sociétés d'investissement. Donc c'est une valeur qui est toujours là. Mais ce qui est sûr, c'est que on touche beaucoup plus des classes d'actifs qu'on avait peut-être tendance à moins montrer par le passé. Une illustration, c'est évidemment, on en a parlé sur le logement. Cette année, donc en pré-ouverture, parce que maintenant et à l'avenir, on va dire que le MIPIM, c'est aussi le lundi. On a le lundi après-midi pour la première fois un événement, un sommet sur le logement et l'habitat qui s'appelle Housing Matters et qui va permettre en fait à un nombre important de participants et des intervenants de poils très différents, on va dire, de débattre et d'échanger sur cette question du logement. Un, avec un axe international. Et vous le disiez, en effet, nous, on a un prisme évidemment très franco-français, mais je pense que les échanges internationaux sont importants là-dessus. Et deuxièmement, avec une volonté de parler plus de solutions, de parler d'innovation et aussi de mise en perspective un peu plus moyen terme, notamment en lien avec les évolutions démographiques, notamment en lien avec les évolutions d'usage et des attentes des habitants et notamment des citadins. Et donc, bon, c'est une illustration, en effet, qui consiste à dire que oui, on essaie d'être au rendez-vous sur les sujets qui comptent. Et si le résidentiel compte, le logement compte, Il sera évidemment présent et fortement au MIPIM.
Oui, effectivement. Donc, du coup, vous avez, et c'est même une tradition au MIPIM, c'est-à-dire que cette volonté, à la fois chaque année, j'emploie le terme un peu décloisonné, ouvrir très largement, finalement, sur l'habitat, l'urbanité. Est-ce qu'on peut résumer ça un peu de cette façon-là ? Et finalement, les contraintes auxquelles sont soumises la France, les contraintes de carbonation, les contraintes de densité, on va en parler avec Philippe tout à l'heure, les problématiques qui sont liées aussi au climat, mais aussi à l'équilibre économique des personnes et les problématiques sociales que ça engendre, notamment sur les crises de logement. Parce qu'on fait à la fois face à une crise sans précédent sur l'immobilier, mais aussi sur le climat, et on a une démographie qui est quand même galopante, avec un phénomène qui est quand même qui touche partout les pays d'Europe, qu'on appelle les phénomènes de décohabitation. Vous savez, de décohabitation qui font exploser les demandes de logement à périmètre constant d'une simple population. Est-ce que le MIPIM s'inscrit toujours autant dans ces débats-là ? Et ma dernière question, justement, sur ce sujet, est-ce que les politiques, comme chaque année, seront présents ?
On essaie de s'inscrire là-dedans. C'est d'une certaine façon, c'est difficile, parce que parler de démographie, de sociologie, dans un événement qui est estampillé investissement immobilier, c'est pas toujours facile. On y travaille, on verra si le résultat...
Il y a pas mal de speakers d'ailleurs qui vont aborder cette notion. Moi, je suis ravi de voir justement une vision un peu holistique de cette rencontre.
On espère que ça va se voir encore une fois, en particulier le sujet de la démographie. Je sais que ça fait des mois qu'avec mon équipe, on s'est dit « Ok, il faut qu'on arrive à rentrer un moment par le sujet démographie et un peu prospective interne. » Donc on verra. Le résultat, c'est la semaine prochaine. En revanche, oui, sur les intervenants... Je pense que ça fait quand même assez longtemps que les professionnels de l'immobilier nous ont dit qu'ils attendent de rencontrer des pairs, mais ils attendent aussi de rencontrer les acteurs publics, ils attendent aussi de rencontrer des experts. La chaîne de valeur s'est largement élargie, et donc oui, on a une vision un peu plus holistique. On a notamment, pour la deuxième année, ce qu'on a baptisé l'an dernier le Forum des élus, qui sera organisé le mercredi de 11h à 15h et qui va réunir plus de 60 élus français qui auront l'occasion pendant quelques heures d'interagir avec des professionnels experts de l'immobilier et aussi de discuter
entre eux. Élus régionaux, ministres aussi qui vont venir.
Et exactement. Alors sur les grands élus, on aura notamment François Bayrou, on aura François Rebsamen, on aura Michael Delafosse, on aura Grégory Doucet. Donc c'est grand-mère et président qu'on attend en fait sur ce genre de rendez-vous. Et en termes de présence ministérielle, on a le ministre du Logement et le ministre de la Transition écologique qui seront présents, fidèles au rendez-vous. Et même à un niveau international, on voit que le cran ministériel est de plus en plus intéressé par le MIPIM, puisqu'on a cette année pour la première fois deux ministres anglais, le ministre du Logement anglais et le ministre de l'Investissement, et aussi la ministre du Logement allemande. Alors c'est dire que le sujet du logement intéresse tout le monde, puisque c'est trois ministres de nos trois principaux pays sur le logement qui seront là le même jour, le mardi, et qui vont d'ailleurs avoir l'occasion de se rencontrer.
Et vous avez d'ailleurs aussi le sommet international qui est avec l'ancienne première ministre finlandaise, Sanna Marin, qui va ouvrir cette 33e édition le 12 mars. Également.
Absolument. On est là plus sur un angle aussi géopolitique, parce qu'on sait que c'est des sujets qui, à un moment ou à un autre, vont avoir un impact sur la façon dont on conduit, nos affaires dans le monde de l'immobilier et de la ville. Et Sanna Marin, pour beaucoup de raisons, et évidemment, je pense des bonnes raisons, représente beaucoup de choses très intéressantes qu'on a envie de voir et d'entendre au MIPIM. Donc elle ouvrira en effet l'événement mardi. À 15h.
Merci beaucoup, Nicolas. Sophie Menet, vous êtes directrice générale de GA Smart Building pour la partie résidentielle. Il y a une chose dont on parle beaucoup ces dernières années, qui est la construction hors site. Comme étant un petit peu la martingale, on dit aujourd'hui on fait de l'assemblage. On va en parler tout justement de ces sujets. On parle à la fois d'économie circulaire, on parle justement de mix et du caractère hybride des matériaux. Est-ce que aujourd'hui, quand vous prenez le MIPIM, cette édition 2024, à l'instar d'une crise quand même qui est profonde, qui est multifactorielle, qui touche le métier depuis deux ans. Vous connaissez les chiffres, ils se sont littéralement effondrés en 2023 notamment. On voit un petit peu de lueur sur 2024. Quand vous voyez le MIPIM et l'implication que vous allez y mettre, vous en espérez quoi justement ? Qu'est-ce que vous y attendez ? Et comment, je vais en profiter pour vous poser la question de savoir comment vous imaginez justement cette année 2024 et sous quels auspices ?
Alors, peut-être pour reprendre l'origine, enfin ce que vous disiez au départ, c'est de parler de la construction hors site, qui est effectivement notre ADN, et qui est, enfin moi je suis arrivée il y a 2 ans dans le groupe pour imaginer ce que serait le logement hors site de demain, puisque il n'y avait pas d'acteur sur la place de Paris qui avait décidé de prendre ce positionnement, et le groupe était historiquement déjà très développé sur cette thématique, mais sur toutes les activités plutôt tertiaires. Je suis arrivée dans un moment clairement de crise, même si elle n'y était pas complètement, on la voyait quand même arriver à grands pas, et on voyait bien un peu ce qui allait se passer. Et moi, j'avais une conviction, en tout cas, c'est qu'une des réponses à la crise, ce serait de construire beaucoup plus rapidement. Et donc, la construction hors site est un des premiers piliers, entre guillemets, pour réussir à construire beaucoup plus rapidement. Puisque
quand on dit beaucoup plus rapidement, est-ce qu'on peut dire que ça raccourcit les délais de 50%?
À peu près, oui.
Est-ce qu'on dit sur on une dit, opération, on passe oui. de 4 ans, pas, de 3 à 4 ans, à quasiment 9 à 18 mois.
Sur une opération résidentielle classique, oui. on divise vraiment par 2 les délais. Et ensuite, si on travaille sur des produits plus type résidentiel géré, donc résidence étudiant, co-living, comme vous parliez aussi des nouveaux modes de faire la ville. Là, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut avoir recours à des modules 3D qui nous permettent d'aller encore beaucoup plus rapidement. Donc, on peut être jusqu'à 70-80% des fois de délai.
Est-ce qu'on fonctionne en mode BIM, justement, sur ce type d'opération?
Alors ça, c'est une obligation, bien évidemment.
Oui. Ça ne peut pas se faire autrement, on est d'accord.
On est même au-delà des outils
numériques. Alors, BIM, je le rappelle, Building Information Model ou Management.
Exactement. Voilà. En fait, on travaille réellement un avatar numérique de chaque bâtiment. Mm-hmm. Donc, dès la conception, dès le premier coup de crayon, et cet avatar, il est hyper important parce que c'est ce qui va nous permettre de piloter la fabrication.
Quand vous dites avatar, est-ce qu'on peut dire jumeau numérique?
C'est un jumeau numérique,
oui,
c'est pareil.
Ça, okay,
ouais, jumeau numérique, avatar numérique. Ça va permettre à la fois de piloter la construction dans nos usines. Ça va nous permettre aussi, avec l'outil temps qui est mis en plus de ce jumeau numérique, de pouvoir piloter ce qui va se passer en temps réel sur les chantiers et sur les livraisons. Et ça va nous permettre aussi, bien évidemment, d'exploiter le bâtiment mieux. Donc finalement, c'est un outil qui est indispensable du début à la fin. Et qui est indispensable aussi aujourd'hui pour un des éléments qui, pour moi, fait partie aussi des sorties de crise, c'est qu'on est, grâce à ce bâtiment, finalement, qu'on arrive réellement à remettre dans son environnement, en capacité de calculer précisément les charges de chaque logement, de réussir à les optimiser et de réussir à aller très loin dans les enjeux de développement durable, qui, pour moi, sont vraiment une des issues de cette sortie de crise.
Sophie, ça, c'est la question qui coule de source. Ça coûte moins cher à l'usager?
Alors, clairement, ça coûte moins cher à l'usager.
Ça doit coûter moins cher.
Alors, ça coûte moins cher à l'usager. Pour le coup, tous les calculs qu'on a pu faire, c'est très simple. Aujourd'hui, vous parliez de taux environ à 4%. Quand on a un taux à 4% et qu'on divise le délai de travaux par deux, vous gagnez en moyenne sur nos opérations. On a des acquéreurs qui gagnent entre 15 et 20 000 euros, on va dire, sur une typo moyenne, juste sur le délai de chantier, donc sur les frais intercalaires. Le truc que toutes les banques vous planquent et vous refinancent.
Vous savez que 15 à 20 000 euros, c'est 15 à 20 000 euros, c'est le chiffre qu'il faut pour resolvabiliser la primo-accession dans le pays.
Et il n'y a pas que ça. C'est que quand vous travaillez en hors-site, vous travaillez avec une méthodologie qui vous permet déjà d'être conforme à l'ARE 2028, voire au-delà. Donc, c'est-à-dire que toutes les opérations qu'on met en commercialisation cette année sont déjà conformes au seuil 2028, ont déjà des étiquettes énergétiques A et nous permettent de gagner en moyenne sur un T3 à peu près 1 500 euros de charge par an. Donc, quand on ramène ça sur 20 ans, c'est 30 000 euros.
C'est très clair. Avant de vous donner la parole, Bérénice, je voudrais avoir une réaction de l'architecte qui est avec nous. J'en profite puisque là, je suis obligé de lui poser la question. Le hors-site, Philippe, c'est une solution?
C'est certainement une des solutions intelligente et pour gagner du temps, pour réduire l'impact carbone. Le Stream Building est un bâtiment, par exemple, dans lequel on a utilisé le hors-site à la fois sur la structure bois, sur les façades, sur les salles de bain. Donc on a pu l'expérimenter, voir à quel point on a gagné du temps en délai de construction. On a réduit de plus de 30%, 35% les émissions carbone par rapport à un bâtiment entièrement en béton. Donc c'est évident que c'est une piste qui me paraît de plus en plus importante dans nos métiers qui sont quand même assez archaïques et dans lesquels je pense que l'obligation, le hors-site nous oblige à être plus précis, à mieux dessiner, à être plus rigoureux. Et donc c'est certainement une piste sur laquelle nous allons continuer de travailler et de creuser.
Bérénice, vous
voulez intervenir? Oui, je voulais rappeler aussi, souligner que le hors-site, s'il y a d'autres avantages, ça permet moins de nuisances pour les habitants du quartier, parce qu'il y a moins de camions, de va-et-vient de camions.
Est-ce que ça veut dire moins de nuisances, moins de recours, Sophie?
Alors oui, ça en fait partie. Non, mais c'est vrai que ça en fait partie. Ouais. Moi, j'étais très surprise de l'acceptation des gens, justement, grâce au hors-site, en particulier sur les projets en diffus qu'on a, où on a eu des propriétaires qui nous ont dit « on vous choisit parce qu'on sait que vous avez plus de chances d'avoir un permis ». Parce que vous faites quelque chose de très environnemental et vous avez moins de chances qu'il soit attaqué. Donc on préfère signer avec vous qu'avec quelqu'un d'autre. Et ça, effectivement, là, pour le coup, clairement, ce que vous disiez, il y a beaucoup moins de camions, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de bruit. Donc ça change complètement.
Et c'est la première fois qu'un Premier ministre pousse, hein, parce que je rappelle que Gabriel Attal, ça fait partie de ses propositions pour relancer justement la crise du logement. Une de ses propositions, c'est d'accentuer leur site. Et il a bien compris que...
Proposition extrêmement intéressante. D'ailleurs, il est même allé chez le dentiste, puisqu'il va chercher du logement avec les dents.
Avec les dents.
Voilà. Non, je faisais un petit peu du mot. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être?
Non, presque une question, une réaction. Quels sont les freins, justement? Mais quels sont les freins à un développement massif de l'usage du hors-site aujourd'hui, technique ou institutionnel?
Très bonne question. Moi, je pense que c'est un peu des freins psychologiques qu'on se donne en France, parce que vous le disiez, si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde entier est construit comme ça, en tout cas tous les pays développés autour de chez nous. Et en France, on a des habitudes et on a du mal de les changer. Et on a une habitude et un mode constructif qui fait qu'on a des compagnons qui sont habitués aussi à faire des tâches d'une certaine façon. Mmh. Et puis, il peut y avoir aussi une réticence, des fois, de la part des architectes ou plutôt, on va dire, des faiseurs de la ville, de se dire « Mais en fait, est-ce que vous allez mettre des boîtes? Est-ce que mon truc, ça va être horrible ?» Donc, on est souvent obligé d'expliquer que faire du hors-site, c'est finalement standardiser l'invisible. Donc, standardiser tout ce qui ne sert strictement à rien pour le commun des mortels, c'est des poteaux, des poutres, des murs. Et en fait, c'est vraiment en standardisant les éléments structurels qu'on gagne sur l'impact environnemental. Et ça permet de faire tous les styles d'architecture à partir
du moment où on
met de la matière grise.
La standardisation, et je m'adresse à l'architecte, n'est pas ennemi. Finalement, le danger de l'unité, vous savez, c'est l'uniformité. Donc, quand on standardise, on ne fait pas du moche, on ne fait pas du pas beau. Est-ce qu'on peut cultiver le geste de l'architecte, le geste architectural, en donnant finalement, avec ces nouveaux paradigmes, du beau et du bien?
Le geste est une expression que je déteste le plus quand on parle d'architecture.
Je vais oublier.
Voilà, non,
je croyais bien.
Mais... Changer de thématique.
Non, mais je trouve que c'est réduire du coup l'architecture à de la gesticulation, du coup. Or, je pense que c'est... Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que c'est une rencontre entre l'art et les sciences. Et donc les sciences... Donc ça veut dire qu'au lieu de parler toujours de création, comme si on était là pour sortir le nouveau style à la mode, ou on n'est pas dans la mode, donc on n'a pas besoin à chaque fois de se renouveler. On est de plus en plus dans des sujets qui vont nécessiter une approche scientifique, une approche d'optimisation, une approche dans laquelle la standardisation peut être... naturellement bien utilisée avec élégance, mais elle n'est pas l'ennemi, de loin s'en faut, de la qualité architecturale
ou de l'esthétique en général.
Absolument. D'accord. Pas. Non, c'est une nouvelle esthétique qu'on doit définir aujourd'hui.
Alors justement, vous parliez justement de caractère scientifique et donc académique, et ça veut dire qu'il faut développer de la recherche. Et je me permets, parce que pour que je saute sur l'occasion, communiqué de presse, je peux le dire, puisque ça a été publié. Je vais faire le pitch. Le lundi 5 février 2024, l'université PSL a inauguré la chaire Ville Métabolisme. On fasse de la philo ici. Je vous le dis. Je veux dire, on va faire vraiment de la philo. Créée avec le soutien de PCA Strib. Excusez-moi du peu, Groupama Immobilier, Artelia. Cette chaire d'enseignement et de recherche d'une ampleur inédite est aussi un lieu de réflexion et d'expérimentation collective entre acteurs publics et privés. Son objectif, être aux avant-postes pour imaginer et concevoir la ville de demain.
Oui, la ville, si vous voulez, est devenue, on le voit aujourd'hui en l'espace de quelques années, je crois que le seuil était franchi en 2008, l'humain est devenu urbain. On le sait, on a dépassé plus de 50% de la population mondiale qui habite en ville.
Absolument.
Cette anthropocène, qui est aujourd'hui notre nouvelle condition, donc d'être dans un monde dans lequel notre activité humaine a un impact sur l'équilibre de la planète, c'est en fait un urbanocène. Donc c'est dans la ville, dans les villes, avec 2% de la surface physique du globe, que l'on va émettre 85% de tous les impacts négatifs de l'humanité. Donc, c'est à la fois un pharmacon, c'est l'endroit où il y a à la fois le problème et la solution. Donc, ce qui est vraiment, qui apparaît maintenant de façon de tout à fait criante, c'est que tous ces phénomènes-là sont des phénomènes systémiques, complexes et globaux. Or, on a une connaissance qui a été fabriquée en silo, et que ce soit dans la connaissance scientifique, hein, on divise par secteur très pointu. Alors les gens deviennent de plus en plus experts, de plus en plus dans des secteurs de plus en plus fins. Mais ce qui manque, et c'est ce que dit Edgar Morin encore à 102 ans, que c'est effectivement la notion de reliance, c'est-à-dire en fait d'être capable de penser systémique. Quand vous regardez le problème du climat, de réchauffement climatique, eh bien, ce sont des actions qui sont faites ici et là avec la construction, le transport, toutes ces activités qui vont avoir un impact sur la concentration de CO2 et donc sur le climat. Alors, donc ça devient quelque chose qui est d'une immense complexité et qui fait que nos métiers ne peuvent pas aujourd'hui faire l'économie d'une recherche très poussée et qui est essentiellement transdisciplinaire. On a commencé dans mon agence, en fait, quand je me suis mis à faire l'architecture, après en fait l'engineering et beaucoup d'autres choses, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que cette recherche soit au cœur, soit précède l'acte de construire. En fait, qu'on pense d'abord, donc je l'ai fait d'abord avec cette revue qui s'appelle Stream, qui nous a amené à comprendre ces phénomènes, à aller vers l'essence du vivant. Et c'est à l'occasion du travail qu'on a commencé il y a 5 ans sur les Champs-Élysées, quand on nous a posé cette question de réenchanter les Champs-Élysées, qu'on a développé ce cadre conceptuel de l'idée de la ville comme un métabolisme. C'est-à-dire d'essayer de comprendre quelles sont les différentes strates qui fabriquent la ville, dans laquelle l'architecture n'est qu'une des strates, à côté naturellement de tout l'aspect naturel, les infrastructures, les mobilités, les usages, et que tout ça aujourd'hui peut être relié au travers d'un jumeau numérique. C'est-à-dire que justement, ce qui avant était une métaphore, la ville comme un organisme vivant, peut aujourd'hui, c'est l'espoir et c'est l'objet de cette chaire, de voir s'il n'y a pas les conditions enfin réunies qu'on puisse le regarder de façon réellement scientifique et de faire à la connaissance de la ville les mêmes progrès que la médecine a fait au cours des 300 dernières années. Quand vous regardez des gravures de la médecine au XVIIe siècle et vous regardez aujourd'hui ce que c'est qu'un hôpital, eh bien, ça n'a rien à voir. Et l'urbanisme, connaissance de la ville n'a absolument pas fait ce progrès, et celui-là, il est urgent de le faire, donc de la recherche.
6 piliers, 6 axes que je reprends dans votre communiqué. La ville comme un système vivant, avec une approche analogique, comme un organisme vivant. Je trouve ça extrêmement intéressant. Étudier l'évolution des villes et la coexistence des strates. D'ailleurs, il y a même une science qui s'appelle la stratigraphie qui étudie. Je déplore d'ailleurs qu'on n'en parle pas suffisamment. La stratigraphie est un vrai sujet. Maintenir en vie, ça j'aime beaucoup, maintenir en état de fonctionnement. C'est-à-dire que vous liez les deux, maintenir en vie et en état de fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez une vision de l'avenir, évaluer la bonne santé des villes et la qualité de vie des habitants, il serait temps. Normes et gouvernance, approche réflexive, la recherche-création et l'exploration des champs des possibles. Vous qui êtes promoteur, quand vous voyez ce genre d'initiative, comment vous le percevez ? Vous vous dites, enfin, ça devient une véritable science. Moi, j'aime beaucoup l'idée que vous avez du caractère scientifique, parce que je trouve, Philippe, que dans votre approche, il y a quelque chose de Michel Serres. Vous savez, dans un livre que tout le monde devrait relire, qui s'appelle « Le tiers instruit », qui a écrit il y a une dizaine d'années, le regretté Michel Serres, qui parlait justement de philosophie et de mathématiques, justement, de recherche académique. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Ça m'évoque beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, de ma petite fenêtre,
ouais. Vous qui êtes opérationnel, en fait. C'est vous qui mettez en musique, finalement.
C'est vrai qu'on a rarement ce niveau de travail sur les opérations. Après, moi, je l'opposerais aussi un peu à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la crise, où finalement, c'est le moment de se reposer plein de questions sur l'urbanisme, sur tout ce que vous disiez, sur la notion de volume aussi. Je pense que...
Quand vous dites volume, est-ce qu'on sera contraint, finalement, de vivre dans moins d'espace ?
Alors, je ne voyais pas forcément la notion de volume comme ça, mais aussi la façon de fabriquer la ville. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on construit des quartiers dans lesquels on vient mettre le maximum de logements dans un minimum d'espace.
Sophie, la ville, est-ce qu'elle est haute ou est-ce qu'elle est large ? Non mais
le problème c'est que ça, le problème c'est que ça change tout le temps. Si je peux me permettre, c'est que les envies, on a vu avec le confinement. Hein, avant justement, il y avait cette envie de densification. Après, pendant les confinements, il y a eu cette envie de verdure. On a vu des gens partir, fuir les grandes villes. Là, les gens reviennent. On parle de surélévation. Alors certains, la plupart des habitants sont pour. Les maires nous disent
le
que
le zéro artificialisation net qui voilà. du coup, nous oblige à repenser.
Et les maires nous disent que depuis 2-3 ans, là, les habitants de leur commune ne veulent plus de construction de logements, alors qu'il y a 10 ans, c'était pas d'entreprise. Donc, on a l'impression voilà, que c'est des courtes durées et que les envies, les besoins changent assez rapidement.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, Philippe, on parle de métabolisme. Donc, on parle de méthode à la fois curative pour réparer finalement un urbanisme qui n'était pas forcément adapté aux usages contemporains, mais on parle aussi du devenir et du bien-être des gens. C'est intéressant parce que cette notion, par exemple, du souci de la santé publique, mm-hmm. comme le souci, par exemple, du marqueur social que représente le logement, je prends le logement par rapport à cela, parce qu'à l'évidence, on n'a pas tous la même égalité si l'on est sur les trottoirs de Paris ou à Manille, hein, par exemple. Comment, justement, on peut rendre ça beaucoup plus proactif. Parce que le projet que vous mettez en place avec cette chaire est extraordinaire. Est-ce que vous allez pouvoir la faire adopter ? Est-ce qu'on a aujourd'hui une masse suffisamment critique pour dire qu'on va entrer dans ce nouveau champ, des possibles ?
Alors, cette chaire va durer 4 ans, peut-être renouvelable. Donc, je ne sais pas encore exactement quel sera son résultat, puisque on sait où on a envie d'aller. Et je ne sais pas si on y arrivera. C'est extrêmement ambitieux. Mais le problème le nécessite, quoi. On voudrait que ce soit pas de la recherche purement académique. On va faire des appels à chercheurs. Donc, je précise que c'est en fait présidé sur le président du comité scientifique, c'est un anthropologue du Collège de France, Péric Pitrou.
40 enseignants-chercheurs sont réunis quand même sur l'opération.
Oui, donc de toutes les écoles de PSL, donc le Normal Sup, les Mines de Paris,
l'École pratique des hautes études, le SPCI Paris, la FEMIS, il y a l'École nationale d'architecture aussi de Paris-Malaquais.
Absolument.
Qui est derrière. Et le CNRS. Également.
Eh bien, tous ces chercheurs, on a été très agréablement surpris de voir à quel point ce sujet de la ville, avait été rencontré beaucoup de succès, puisqu'en fait, quand on crée des chaires comme ça, on ne sait pas si les chercheurs seront au rendez-vous. Beaucoup de chercheurs intéressés par le sujet, qui est très transversal. Et le défi est tout à fait considérable. Donc, nous, notre volonté, c'est d'être. D'arriver à créer cette position entre le faire, parce que nous avons une partie, bien sûr, opérationnelle, l'agence, on construit, donc on est dans le faire, et à la fois dans la réflexion. Et aujourd'hui, ce que j'ai constaté depuis 25 ans, c'est qu'il y avait assez peu d'espace, finalement, ou peu de monde qui se trouvait à cette rencontre entre l'action et la recherche. Et donc, c'est un travail que l'on veut être opérationnel, c'est pas pour reproduire des études ou des papiers dans les revues scientifiques, c'est vraiment pour essayer de coller au terrain et d'amener les chercheurs sur le terrain. Donc là, on doit faire notre mois d'avril ou mai une visite sur le quartier de la Défense, par exemple. On va amener des chercheurs, des biologistes, des neurobiologistes, des mathématiciens, enfin pour vraiment essayer de leur faire comprendre qu'on part de quelque chose qui est très matériel, qui est la ville, et de voir comment chacun dans sa spécialité, va pouvoir rentrer dans le sujet et nous aider à penser cette ville comme un organisme.
Est-ce que finalement, ce que vous dites n'est pas ce que la praxis est à la métaphysique ? Donc, c'est-à-dire qu'à la fois une pensée très profonde, très abstraite, très j'ai dit, en même temps très, très humaine et un caractère très opérationnel, très transverse, qui permet en fait de visualiser très concrètement ce que l'on a pensé. C'est finalement presque une vision aristotélicienne et platonicienne réunie, quoi. Bon, je sais, c'est dans le haut niveau.
Ouais, voilà.
Dites merci, voilà. J'aime beaucoup cette idée de réintroduire un peu de philosophie dans tout ça.
C'est une idée de recherche-action. Et effectivement, on a dans les revues stream énormément d'appels à des philosophes, parce qu'en fait, on est dans des sujets qui ont un niveau philosophique. Mais pour prendre une image peut-être encore plus concrète et rester sur cette idée du métabolisme, en fait, ce que l'on intuite, c'est qu'en fait, ce qui a permis justement cette connaissance de ce progrès de la médecine, c'est cette chose qu'on appelle le CHU, qui est de pouvoir réunir dans un même lieu les patients que l'on soigne, les chercheurs
et l'université, oui.
Et l'enseignement. Et donc on forme par la recherche et sur la pratique les médecins de demain. Et c'est un petit peu cet idéal, connaissez notre modeste échelle de dupliquer, en se disant que PCA Stream, en ayant l'initiative de cette chaire avec PSL, qui sont venus nous chercher pour trouver un projet transversal entre les écoles, et donc on a construit ce projet depuis 3 ans, c'est l'idée de pouvoir être une sorte effectivement de CHU de la ville, dans lequel on va pouvoir, on considère chacun de nos projets, non pas comme un projet de construction, mais comme un cas d'école, un patient. Chaque projet est un patient, et d'essayer donc d'en faire un objet de recherche et de formation. Donc tous les collaborateurs que l'on a sont aussi dans un travail de formation permanente au travers de la chaire. Donc il va être un accélérateur de transdisciplinarité et de connaissance de ces systèmes complexes.
Vous savez quel est l'ennemi, quel est l'ami de la radio? C'est la frustration. On a envie de plus. Et il va falloir se quitter. Je vous propose juste très rapidement, en moins d'une minute, alors ça augure d'ailleurs très bien, les amis, du type d'émission que l'on va produire au MIPIM. Je pense que ça va être vraiment du vol. Faites-moi la promesse, Philippe, de venir sur notre plateau. On a la chance, grâce à vous, Nicolas, d'être au 4e étage, à côté du Salon des Ambassadeurs, sur cette scène que vous nous avez confiée pour faire notre plateau. D'ailleurs, dans un espace où il y a les villes d'Europe, les grandes villes d'Europe, au 4e étage. Vous viendrez?
Je vous le promets.
Avec grand plaisir. Sophie également. Okay. Je vous propose, pour conclure, mon cher Philippe, un jeu, et je vais vous demander de chacun de choisir juste un mot, un adjectif, n'importe lequel, un seul mot, qui vous viendrait spontanément à l'esprit pour illustrer le propos. Je vais commencer par vous, Sophie.
Pour illustrer mes propos?
Oui, un mot.
Passionné,
passion. Parfait. Merci, Sophie. Nicolas?
Possible.
Philippe?
Je vais rester dans le vivant.
Vivant. Bérénice?
Changement.
Opérer un changement sur le vivant et le rendre possible, pour cela, il faut une chose. Passion et passion. Merci
bravo.
À vous quatre d'être venus sur le plateau de Radio Immo pour cette émission en avant-première du MIPIM. Je rappelle, c'est du 11 au 15 mars au Palais des Festivals de Cannes. On peut toujours s'inscrire, hein?
Toujours, jusqu'à la dernière minute et même après.
On s'inscrit, voilà, vous prenez votre passe, vous venez nous voir. Toute la planète y est, on se fera un grand plaisir. Et voilà, on sait, depuis que Nicolas est venu sur le plateau, qu'il fera très beau la semaine prochaine. Donc en plus, vous pourrez boire un café devant, venir rencontrer et voir des personnes extraordinaires, des personnes singulières comme Philippe Ciambaretta, Sophie Menet. Merci, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes architecte, fondateur de l'agence PCA Stream. Et d'ailleurs, je vais voter pour vous. Vous avez été nominé sur un formidable projet dont on parlera bien évidemment pendant toute cette semaine. Je rappelle également Sophie Menet, vous êtes directrice générale du pôle résidentiel de Gia Smart Building. Merci beaucoup. Je crois que votre président, c'est Sébastien Maty.
Exactement.
Voilà. Bon, vous lui ferez un petit coucou. Je l'invite que depuis 3 ans. Hein. Bon, ça serait bien qu'un jour, il vienne sur le plateau. En tout cas, vous lui transmettrez mes amitiés. J'ai bien connu son prédécesseur, qui était un type formidable. Merci également Nicolas Kozubek, directeur du MIPIM, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là aussi. Merci également à toutes les équipes du MIPIM qui ont été formidables dans cette construction. Merci à Radio Immo avec Jason et toute l'équipe derrière pour produire ce spectacle, cette émission. Et bien sûr à notre rédactrice en chef, Bérénice de Villefloriot.
Merci.
Voilà, bon MIPIM à tous et on se retrouve mardi prochain.
Émission spéciale MIPIM 2024 sur Radio Immo.